Les journaux, Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et merci de nous recevoir chez vous au sommaire de ce journal. Le calme est revenu dans les collines de Saké, mais la localité de Mouchaki et Karouba toujours sous contrôle des insurgés fidèles au général Déchi Kounda. Les détails dans cette édition du journal parlé. 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, l'Observatoire du code éthique professionnel pointe du doigt certaines institutions de la transition comme le plus corrompu. Et enfin, les candidats gouverneurs ont 4 jours de plus pour déposer leur candidature. La commission électorale indépendante vient de décider de cette rallonge, faute d'un nombre important de candidatures à la date limite de dépôt vendredi dernier. Voilà, c'est la fin de ce sommaire. Mesdames et messieurs, dirais chef, bonsoir. Les armes se sont tues depuis la mi-journée de ce samedi autour de Saké, où des combats ont été signalés entre les troupes fidèles Laurent Kounda et les forces loyalistes du 14e brigade. Mais selon le colonel chargé des opérations au sein de la 8e région militaire, Mouchaki et Karouba restaient toujours entre les mains des insurgés. De leur côté, les FRDC reconnaissent avoir perdu 3 soldats dans les combats. Les détails avec Denise Loukesso.
Les responsables de la 8e région militaire reconnaissent que les opérations engagées ce samedi matin par 2 bataillons de la 14e brigade intégrée en vue de déloger les hommes de Kounda des localités de Mouchaki et de Karoubou autour de Saké n'ont pas donné de résultats escomptés. Rien n'a changé, nous gardons toujours nos positions autour de Saké, a déclaré cet après-midi le colonel Delphin Kahimbi en charge des opérations à la 8e région militaire. Cet officier militaire affirme que les insurgés auraient perdu 45 personnes dans les combats et connu une centaine de blessés. De leur côté, les forces régulières auraient perdu 3 militaires et connu 14 blessés dans leur rang. Aucun mort ni blessé côté civil selon la même source. Les habitants de Saké qui avaient repris les chemins de l'exil vers Moubambiro au nord ou vers Kirotu aussi de leur cité disent être en train de revenir progressivement dans leur maison à la faveur d'une accalmie dans les tirs tout l'après-midi. Depuis Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Par ailleurs, les combats se sont arrêtés depuis hier vendredi dans les secteurs de Ruyoni, à 8 km de Bunagana, près de la frontière avec l'Ouganda, en territoire de Rutshuru. Les autorités militaires de la 9e et 11e brigade intégrées qui ont lancé vendredi une opération contre d'autres hommes de Kounda pour récupérer la localité de Ruyoni déclarent que cette localité reste toujours sous le contrôle des insurgés. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, vive tension à Faradjé dans le district du Haut-Touélé depuis 2 jours maintenant. Les habitants ont investi les installations du bureau administratif du territoire. Par ce fait, ils réclament le départ des militaires des FRDC commis à la garde du parc de la Garamba. Selon le responsable d'une radio communautaire locale, tout est parti d'un incident survenu dimanche dernier. Des enseignants auraient été frappés, même essuyés des tirs de la part d'un groupe de militaires. L'un des enseignants serait hospitalisé suite aux coups et blessures reçus, rapporte la même source. Willy Kalombo a pu joindre au téléphone un témoin qui a requis l'anonymat.
Après que le militaire ait tiré sur des enseignants qui revenaient du marché, l'autre a cherché à ravir l'arme. Les autres militaires qui étaient à côté se sont maintenant jetés sur l'autre enseignant et ils l'ont tapé à mort. Qui est pour le moment à l'hôpital. Depuis hier, il n'y a pas le boulot au niveau de Faradjé. Même les hôpitaux ne fonctionnent pas. Les autorités ont tenté de calmer la population depuis hier. Ça n'a pas marché parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne sait pas le maîtriser. Depuis hier, ils ont même passé nuit au niveau du bureau de territoire. Ils disent que tant que les militaires ne sont pas partis, ils ne rentrent jamais à la maison.
Pendant ce temps, à Guémena, ce sont des militaires FRDC qui réclament la démobilisation. Ces éléments estiment que la CONADER a fermé trop tôt le centre d'orientation de Guémena dans la province de l'Équateur, alors que certains d'entre eux envisagent retourner à la vie civile. Pour l'instant, ces candidats au brassage sont cantonnés au camp Libengue-Moké en cohabitation avec les éléments intégrés de la 10e brigade. Le coordonnateur intérimaire de la CONADER Équateur reconnaît cette situation. Deken Naïa annonce pourtant l'arrivée bientôt d'un groupe mobile chargé de la démobilisation des combattants à l'Équateur. Il est au micro de Régine Bokoumanzango.
Il est vrai qu'il y a eu un groupe de combattants qui devrait être démobilisé. Malheureusement, il y a eu fermeture de centres d'orientation. Nous reconnaissons cette situation. Il était prévu un déploiement d'une équipe mobile pour chercher à terminer ce cas d'éléments qui devraient être démobilisés. À ce que nous sachions, le déploiement de cette équipe mobile-là a déjà commencé dans 3 régions militaires. Et pour la région militaire de l'Équateur, Je pense que dans les prochains jours, on pourra commencer les opérations en attendant les instructions de la hiérarchie. Ce que je peux dire à ces militaires, c'est d'être tranquilles, je les appelle au calme, parce que le programme du PNDDR continue, et qu'ils soient tranquilles. Le jour où on va déployer l'équipe mobile, on va traiter leur cas et ils vont sortir. Parce que la démobilisation est volontaire, et le fait de rester dans l'armée aussi est volontaire. Donc ils se tranquillisent, la CONADER reconnaît cette situation, et on va chercher à le résoudre.
De l'autre côté, dans la province du Bandundu, la mauvaise interprétation du discours du chef de l'État a fait des victimes à Kikwit. 6 policiers des gardes de la prison urbaine sont condamnés à la peine allant de 1 à 10 ans de servitude pénale principale pour évasion des détenus. Verdict rendu par le tribunal militaire de la garnison de Kikwit. Les gardes et les prisonniers auraient pris pour mesure de grâce l'extrait du discours du président. Je cite, les portes de prison seront ouvertes pour tous les fauteurs de troubles. Fin de citation. Les détails avec Fabien Cambizi.
Le verdict est tombé ce vendredi après l'audience publique tenue à la prison même de Kikwit. Il ressort en date d'ici décembre 2006 lors de la cérémonie de prestation du serment du chef de l'État que les prisonniers ont suivi, que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu à demander à ce que toutes les portes de la prison soient ouvertes. C'est ainsi qu'interpréta très mal ce discours du chef de l'État. Les prisonniers avaient exigé leur libération au chef de poste de garde à la prison. Qu'ainsi, ils avaient ouvert la porte sous les yeux des policiers de garde et étaient sortis tout librement avec tous leurs biens sans que les gardes les en empêchent. Au total, 34 prisonniers qui se sont évadés, dont 17 civils et 17 militaires. Le caporal dépose après que tous les prisonniers aient vidé la prison, tirera en l'air pour sommation. Le tribunal a retenu à charge du chef de poste Mugala Mouké de la police nationale congolaise l'infraction d'évasion des détenus. Idem pour le caporal de poste à qui le tribunal ajouta la dissipation des munitions de guerre. Le tribunal a eu à condamner le chef de poste Mugala Mouké à la peine de 10 ans de servitude pénale principale pour évasion. Le caporal de poste de la police Kingombe aussi à 10 de servitude pénale principale pour évasion des détenus et 1 an pour dissipation des munitions de guerre. Les restes des agents de la police, 1 an chacun. Kikwit, Fabien Cambizi, Radio Okapi.
9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. L'OFIDA, le ministère des Finances, la magistrature et l'espace présidentiel de la République sont pointés comme les institutions les plus corruptibles pendant la transition. Ceci est le résultat d'une enquête réalisée par l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle de la fonction publique. Ce rapport a été présenté ce samedi au Grand Hôtel de Kinshasa. L'OCEP préconise des mécanismes de lutte contre la corruption. Ceci pour sortir la RDC de la 153e place au classement des pays les plus corrompus au monde sur 163 États. Écoutons le directeur général de l'OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, au micro de MNCA.
Nous avons prévu 3 types de stratégies. Il y a d'abord les stratégies préventives. Les stratégies préventives passent par la sensibilisation. Par exemple, la campagne de vulgarisation du code de conduite de l'agent public de l'État. La deuxième stratégie, on appelle la stratégie des sanctions collatérales. D'abord, il y a les sanctions négatives sur le plan administratif. Ouverture d'action disciplinaire, révocation, blâme, licenciement, ainsi de suite. Sur le plan judiciaire, quand vous avez détourné, on envoie les dossiers au parquet, aux cours des tribunaux qui vont s'en occuper. Mais il y a un troisième type de sanction, c'est-à-dire il faut le faire en stimulant davantage, en motivant davantage les gens qui se sont bien comportés, en donnant les primes d'aviseurs, en créant les silos d'intégrité qui permettent aux gens de prêcher la bonne nouvelle par l'exemplarité.
Pendant ce temps, sur le terrain, l'auditorat militaire et l'ANER Kasumbalesa ont reçu un coup de filet mercredi dernier. 7 véhicules portant les immatriculations temporaires ont été saisis alors qu'ils tentaient de traverser la frontière par voie frauduleuse. Le gouverneur de la province a procédé à la présentation de ces véhicules à la presse hier vendredi. Il faut dire que cette action est la première du genre lorsqu'on sait que la fraude est permanente à cette frontière. Clarisse Kisanga.
D'après M. Félix Gaboulo, chef de cité de Kasumbalesa, c'est au cours d'une patrouille organisée par l'auditorat militaire et les services de sécurité que ces véhicules ont été saisis. Cette action fait suite à la réunion de sécurité tenue mercredi dernier à Kasumbalesa sur la lutte contre la fraude à la frontière. L'inspection de l'auditorat militaire de Kasumbalesa a mis la main sur 3 véhicules. Les 4 autres ont été saisis par les agents de l'ANR la même nuit. Et les chauffeurs de tous ces véhicules sont aux arrêts, a précisé le directeur provincial de l'OFIDA. Selon des témoignages recueillis à Kasumbalesa, les opérateurs économiques préfèrent traverser la frontière par des voies frauduleuses en payant moins de frais aux militaires plutôt qu'à la douane. Le gouverneur de province qui a présenté ses véhicules à la presse locale ce vendredi a déploré la complicité des agents des services de l'État dans la fraude à la frontière. Urbain Kisulangoy promet de renforcer la sécurité à Kasumbalesa afin de lutter contre la fraude et permettre ainsi à l'État de réaliser des recettes. Lubumbashi, Clarisse Kisanga, Radio Okapi.
Autre chose à présent, à Luebo, un conflit interne d'origine probablement tribale paralyse les activités à l'hôpital général de référence de ce territoire. Selon Marcel Ndomba de la société civile, tout est parti de l'opposition affichée par l'ancien corps soignant au nouveau comité mis en place par le secrétaire général à la santé. Conséquence, depuis maintenant 3 semaines, les malades sont obligés de parcourir au moins 7 km au-delà de la rivière Lulua pour se faire soigner. Une situation que la société civile déplore. Écoutons Marcel Ndomba de la société civile Luebo au micro de Marie-Chantal Lumba.
Les gens ne fréquentent plus l'hôpital du général de référence compte tenu des conflits qui se trouvent parce que le secrétaire général Nyata est venu notifier le médecin directeur avec le directeur de l'IRFI, le chargé de la pharmacie, chargé de pédiatrie, chargé de salle d'op. Il y a eu des conflits à l'hôpital. Nous demandons aux autorités politico-administratives de voir cette situation parce que ça risque de créer des problèmes ici à Lebo et les gens qui ne fréquentent pas de soins, les malades peuvent mourir.
Contacté à ce sujet, le médecin inspecteur provincial, le docteur Jean-Constantin Canoa, appelle les uns et les autres à privilégier l'état de santé de la population, tout en estimant que personne n'a le droit de contester la décision du secrétaire général à la santé. Toujours dans le secteur sanitaire, le choléra tue à Bukavu. 5 personnes sont déjà mortes en une semaine. Les 5 décès ont été enregistrés dans le même quartier populaire de Kadutu. Une situation qui a poussé l'autorité provinciale de déclarer officiellement un début d'épidémie à Bukavu. Le manque d'eau potable dans la région serait à l'origine de cette situation. Reportage Charlotte Ngungi Selemani.
Environ 150 personnes sont actuellement traitées contre le choléra à l'hôpital général de référence de Bukavu et l'hôpital n'a pas de réserve d'eau pour conserver l'eau potable pour ces malades. Selon le médecin chef, le centre de choléra utilise environ 50 litres d'eau par jour et par malade pour tout usage, c'est-à-dire l'eau à boire, mais également pour se laver et nettoyer. Pour l'instant, l'hôpital utilise l'eau du robinet, mais selon le médecin chef, le centre de traitement du choléra aurait besoin d'un réservoir pour éviter toute contamination. On écoute le docteur Imani Massimango.
L'eau que nous utilisons dans les pavillons, c'est l'eau de la régie des eaux. Et nous pensons que pour le moment, c'est avec les pluies de ces derniers mois, l'eau de la régie des eaux est plus que suspect. Nous voudrions mettre à la disposition de nos malades qui sont là et peut-être des accompagnants une eau potable qui soit permanente autour du pavillon. Nous avons plus que besoin d'un réservoir d'eau potable qui devrait être permanent pour permettre le bon assainissement de notre centre.
Le docteur Massimango a déjà fait une demande d'eau potable auprès de la MONUC et selon lui, d'autres partenaires de l'hôpital ont promis de leur fournir un petit réservoir. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, les candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ont jusqu'au mardi 12 décembre pour déposer leur candidature. La CEI vient de leur accorder une rallonge de 4 jours. La commission électorale indépendante justifie cette décision par le fait que jusqu'au vendredi dernier, date limite de dépôt, elle n'avait pas suffisamment de candidatures pouvant lui permettre d'organiser ce scrutin. Dieudonné Mirimo, rapporteur général de la CEI, au micro de Karine Kakassi.
Le bureau a décidé de prolonger du 9 décembre au 12 décembre 2006 jusqu'à 16h30 le dépôt des candidatures pour l'élection donc de gouverneurs et vice-gouverneurs. Raison pour laquelle donc, nous avons donné l'occasion à tous les retardataires de pouvoir se mettre en ordre et nous permettre donc de passer aux étapes suivantes d'examen des candidatures, de publication de la liste avant de passer au scrutin prévu le 16 janvier 2007. Après, ce sont les gouverneurs qui devront former leur gouvernement provincial. Et plus tard, nous allons maintenant préparer les élections locales, municipales et urbaines.
Un mot sur la page internationale. La rébellion tchadienne a affirmé avoir repoussé samedi une offensive de l'armée tchadienne près de Bultin, est du Tchad, faisant 100 morts et un nombre non déterminé de blessés dans les rangs gouvernementaux. L'armée a attaqué une position de l'Union des forces pour la démocratie et le développement, IFDD, devant Bultin peu après 6 heures du matin. Les rebelles repoussant l'attaque 3 heures plus tard, a expliqué le porte-parole rebelle Ali Moussa Iso sur un site web de l'opposition tchadienne. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition mise en onde par Mimi Kindou. Merci à Jean-Claude Toumba Kamanga et Léonard Moulamba pour la réalisation. Jacques-Yves Moulima vous dit merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.